comme Suzanne et Hector, qui ont écouté notre émission d'hier sur la randonnée.
Bonjour France Inter, c'est Suzanne et Hector, on est à Crozon, on a 11 ans et
on a entendu l'émission avec David Le Breton et on faisait une super rando, donc on voulait laisser un message.
Merci France Inter,
au revoir.
Au revoir.
France Inter, chacun sa route.
Je suis bien d'accord, merci France Inter. C'est un voyage étoilé, un voyage par-delà les frontières que nous connaissons. C'est un monde éloigné et si proche à la fois. C'est un voyage fait de rencontres, d'écoutes, de jeux, de poésie et de beaucoup d'amour. Notre invitée est belge. Sur Instagram, elle se présente comme une photographe et réalisatrice belge habitant Paris. Elle a 27 ans et dès l'âge de 7 ans, elle commence à prendre des photos de ses copains d'école. Elle commence à travailler en parallèle du lycée, puis intègre l'école des Gobelins. Depuis, elle a réalisé plusieurs des clips de la chanteuse Angèle qui dépasse tous les 20 millions de vues sur YouTube et pour Balance ton quoi, très très largement au-dessus des 20 millions même. En 2018, elle publie le livre Maurice, Tristesse et Rigolade dans lequel elle a accepté de se replonger avec nous aujourd'hui. Elle a décidé de commencer notre conversation sur le voyage, un voyage qui va nous emmener sur une autre planète avec la lecture d'un texte.
Élodie Font, chacun sa route sur France Inter.
Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même de n'être pas assez poète pour en appeler à vous les richesses. Car pour le Créateur, il n'y a pas de pauvreté. Il n'est pas d'endroit pauvre, indifférent. Et si même vous étiez dans une prison, si les murs ne laissaient venir à vos sens aucun des bruits du monde, alors n'auriez-vous pas toujours votre enfance, cette richesse délicieuse et royale, ce trésor de souvenirs ?
Bonjour Charlotte Abramoff.
Bonjour.
Rebonjour même. Quel est cet extrait ?
C'est un extrait de Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke qui m'a été donné de lire quand j'étais au lycée grâce à mon professeur de latin, M. Van Langenhoven, que j'embrasse parce qu'il m'a beaucoup inspirée. Et je faisais déjà de la photographie à cette époque-là et il m'avait marqué sur le fait de prendre confiance en l'acte créateur et en la patience qui en découle et à comment regarder les choses autour de soi et en soi aussi pour créer en fait.
Il avait fait ça comment ?
De quoi le prof ?
Ouais.
En fait, il avait, ça me fait rire, il avait axé l'année sur la thématique du rêve et il faisait des parallèles entre des textes de latin, des chansons de Brassens, des tableaux, c'était super chouette.
La chance, parce que moi, j'ai pas du tout eu ce genre de prof de latin.
Voilà, monsieur Van Langenhoven, je vous embrasse.
C'était où exactement ?
C'était à Bruxelles, au lycée Émile Jacquemin.
Entre-temps, vous avez fait plusieurs détours, on va en parler. Mais d'abord, comme on parlait de poésie, comme cet extrait parle de poésie, comment vous l'amenez à vous, la poésie ?
C'est vrai que c'est différents médiums. Moi, c'est par l'image, la photographie et la vidéo, mais je pense que c'est au final toujours un peu la même chose, c'est-à-dire comment on perçoit, on ressent les choses et comment ensuite on les digère et comment on les transforme en quelque chose de créatif et d'artistique. Et je pense qu'il y a quelque chose de thérapeutique dans cette digestion et dans le fait de transformer les choses à travers son œil pour soi et pour les autres.
Ouais. En tout cas, c'est quelque chose que vous cherchez, vous, dans votre quotidien, la poésie.
Oui, oui, complètement. Et je pense que je vis parfois un petit peu à côté de la plaque aussi, et parfois beaucoup en moi et dans mes pensées. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti ma vie, et j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ça de mon métier et au quotidien, quoi.
Et vous vous offrez des bulles de poésie, ou c'est quelque chose qui vous nourrit au quotidien ?
Je pense que je peux être inspirée par un peu tout. Enfin, tous les artistes vont dire ça, mais la vie quotidienne, les rencontres, une lumière, un petit vieux qui rate son bus, des choses simples comme ça. Et puis après, des lectures plus profondes ou plus sociologiques, mais en tout cas, je suis beaucoup dans les nuages, quoi.
Oh, on va en parler parce que justement vous allez nous emmener aussi quelque part dans les nuages. Mais pour bien comprendre qui vous êtes, Charlotte Abramoff, vous êtes née en Belgique, vous y avez grandi pendant plusieurs années. Et puis à 9 ans, vos parents, sur un coup de tête, partent à Belle-Île-en-Mer, c'est ça ?
C'est ça.
Vous alliez en vacances, d'un coup ils se disent, tiens, si c'était les vacances toute l'année.
C'est vrai, il y avait un peu un ras-le-bol de la Belgique et du quotidien et une envie de nature, de dépaysement, de quelque chose de sauvage. Et c'est vrai qu'en tant qu'enfant, parce que j'ai du coup vécu là de mes 8 à mes 13 ans, c'était fabuleux parce que c'était... Enfin, c'est un détail par exemple, mais à Belle-Île, il n'y a pas de feu rouge.
C'est vrai?
C'est vraiment un super détail, mais du coup, c'était vraiment comme une espèce de monde féerique avec la nature, les senteurs, la mer. Et c'était très, très inspirant et très forgeant pour moi, pour juste la découverte de la vie autour des cinq sens et tout ça, quoi.
Plus encore que la Belgique, parce que j'ai lu que vous faisiez déjà des photos quand vous étiez en Belgique, quand vous étiez encore plus jeune.
Alors après, c'est vrai que c'est parce que j'avais un petit appareil jetable que j'emmenais parfois à l'école, quoi. Mais c'est vrai que Belle-Île est d'une telle beauté que ça éveille beaucoup de choses et c'est très inspirant, rien que de s'asseoir sur la falaise et de regarder la mer. Ça invite à une poésie intérieure, à une réflexion et à une admiration de l'instant présent. Et c'est vrai que beaucoup plus qu'en Belgique, quoi.
Et le fait d'être sur une île, vous vous êtes plus tard d'ailleurs intéressé, on n'aura probablement pas le temps d'en parler, mais vous vous êtes intéressé dans votre travail aux îles Féroé aussi. Le fait d'être sur une île, est-ce que ça change quelque chose ?
Bah franchement, je pense que ça contribue au fait de se sentir un peu coupé du monde, forcément, puisqu'on l'est déjà géographiquement. Après, je pense que le fait que j'ai vécu ça en étant enfant, c'est des perceptions aussi très particulières. Et je pense que, par exemple, pour l'adolescence, c'est plus difficile à vivre. Mais l'insularité, oui, ça a quelque chose de complètement suspendu dans le temps. Pour le coup, les saisons, on les ressent beaucoup plus, puisque l'été, il y a beaucoup plus d'afflux de monde. Et l'hiver, c'est complètement désertique. Il y a juste le Super U qui est ouvert. Mais c'est vrai que voilà, il y a une forme de comme si on se sentait en sécurité, à l'abri et dans son petit monde, quoi.
Et vous avez retrouvé la Belgique après ?
Oui, voilà. On est rentré en Belgique quand j'avais 13 ans parce qu'on s'est dit que... Enfin, c'était aussi parce qu'en fait, à Belle-Île, pour continuer la scolarité au lycée, il faut aller sur le continent en internat. Ah. Et j'ai des parents un petit peu poules qui étaient là. Non, on veut rester avec elle. Du coup, on a préféré rentrer tous en Belgique.
Où en Belgique ?
À Bruxelles.
Ah oui, tout simplement.
Tout simplement.
Tout simplement la capitale. Vous avez donc très tôt eu ce goût pour la photographie. Vous disiez tout à l'heure... J'aime bien être dans les nuages, je suis souvent dans les nuages. Est-ce que la photographie, c'est quelque chose qui, comment dire, c'est un trépied pour aller plus loin et plus vite dans les nuages ?
Bah complètement. Après, si on s'arrête aux choses un peu ordinaires et basiques, bah il y a forcément ce truc de capturer le temps et après de pouvoir y revenir, de pouvoir recontempler la chose. Après, moi, je suis plus dans la photographie que je construis plutôt que je capture. Et c'est une manière de forger les choses, de les fixer et puis de les contempler, de les comprendre, de les accepter. Et je pense que ça peut s'adapter à pas mal de thématiques dans ma vie. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'aide à réfléchir, à mieux comprendre le monde autour de moi et à le faire exister et faire exister justement tous ces cheminements de pensée, de conscience.
Vous regardez souvent des photos que vous avez prises ?
Bah ça dépend. Après, forcément, ça fait partie de mon travail. Mais c'est vrai qu'après, j'ai un lien à mes images qui se crée. Bah forcément aussi le projet sur mon père dont je vais vous parler. Et ça permet aussi d'exister à travers le livre, à travers les photos et d'être toujours là.
Parlons-en. Ça y est, maintenant qu'on se connaît un peu plus. Quel souvenir vous avez de votre père enfant ?
Un papa toujours en retard, mais toujours là, parce qu'en gros, il a pris sa retraite quand j'avais 3 ans, puisque en gros, je suis née, il avait 61 ans. Il était médecin, scientifique, chercheur, professeur d'université, il était très pointu dans son domaine, et ma maman est médecin aussi, elle est psychiatre, et donc j'ai connu un schéma un petit peu... comment dire, extraordinaire, dans le sens où c'était ma maman qui travaillait et mon papa qui restait à la maison. Mais on était quand même très proches tous les trois. Et donc, j'ai grandi avec un papa très cool, un peu laxiste, qui me laissait mettre ce que je voulais dans le caddie. Et qui était avec qui j'avais une super complicité et très joueur et très tendre. Donc, j'ai de la chance d'avoir une figure paternelle rassurante et chouette.
Et aussi tendre. Et puis, il y a presque 10 ans, et c'est là l'origine.
Oh, c'est vrai, 10 ans, ouais. C'est fou.
Là, vous n'aviez pas calculé.
Non, j'avais pas calculé que ça faisait bientôt 10 ans, mais ouais. C'est fou.
C'est fou. Le 2011,
ouais.
Il y a presque 10 ans donc, les médecins décèlent chez votre père un cancer du cardia. Je dois vous dire que j'ai découvert le cardia avec vous.
Je comprends.
La jonction entre l'œsophage et l'estomac. Et vous dites, je trouve ça assez joli, je m'imaginais bêtement que des parents médecins étaient des parents invincibles.
Ouais, bah complètement. C'est vrai, je pense que c'était une pensée magique d'enfant où je me sentais peut-être encore plus en sécurité parce que bah, j'avais mes parents déjà et parce que ces parents-là avaient des connaissances sur comment réparer le corps et quoi faire s'il y a un problème. Et c'est vrai que je les imaginais un peu comme des super-héros du coup qui ne pouvaient pas tomber malade alors que si. Donc le coup de massue était un peu double, mais c'était vraiment une pensée magique d'enfant.
Et il y a la chimiothérapie d'abord pour votre père qui s'appelle Maurice, puis l'opération pour enlever la tumeur qui se passe bien, sauf que les médecins ont découvert trop tard qu'il était allergique à l'un des médicaments administrés pendant et après l'opération. Et Maurice tombe dans le coma. On est en 2011. Il n'y a pas de photo dans votre livre du moment où il est dans le coma. Est-ce que vous ne prenez aucune photo de ce moment-là?
Bah, c'était un moment très 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 difficile parce qu'en fait déjà en plus il avait fait plusieurs arrêts cardiaques et un choc pulmonaire avant de tomber dans le coma. Donc on ne savait absolument rien de pronostic, de réveil, de comment ça va aller. Et puis surtout, son cerveau avait manqué d'oxygène, du coup, pendant de longues minutes, pendant cet arrêt cardiaque. Et puis surtout, les soins intensifs, c'est très, très violent. On est entouré aussi d'autres personnes malades. Et pour moi, c'était pas possible. Déjà, même dans ma mémoire personnelle, c'est très difficile de garder ce souvenir parce que c'est quelque chose d'assez violent. Et puis, de toute manière, c'est un trou noir, que ce soit dans la mémoire ou dans l'espace-temps qu'on était en train de vivre. C'est, on ne sait pas où il est. C'est-à-dire, il est toujours vivant, mais il n'est pas conscient, mais on ne sait pas. C'est un entre-deux qui fait que le mystère est total.
Et même après avoir passé plusieurs années avec lui derrière et avoir essayé de comprendre là où il était, puisque on va en parler, il n'était plus exactement là où il était avant de tomber dans le coma. Et est-ce que ces années que vous avez passées à le photographier, à capter son regard, est-ce que ça vous a dit quelque chose quand même du coma, ou est-ce que ça restera un mystère
Bah, le coma restera toujours un mystère de avant-après. Mais ce qui était intéressant, c'est puisqu'en fait, quand il est sorti du coma, il avait perdu énormément de ses capacités, même du langage. Et les médecins n'étaient pas forcément hyper optimistes puisqu'il avait 79 ans à cette époque-là. Donc, ils étaient là, bon, bah, c'est normalement, on va pas en tirer grand-chose. Et sauf que, avec ma maman, on a énormément travaillé à le soutenir et à le stimuler de manière perpétuelle, et il a eu une convalescence de 2-3 ans où il est resté très endormi avec beaucoup de difficultés de communication, même dans le regard, il avait toujours le regard absent, etc. Et en fait, la patience, les soins, l'amour ont fait que petit à petit, à la surprise de tous, il a commencé à se retrouver plus connecté. Ça passait toujours d'abord par le regard et par l'interaction, et puis il commençait à retrouver la mémoire, à mélanger des poèmes de La Fontaine et de Victor Hugo, et à se réjouir lui-même, en fait, comme un grand enfant, en fait. Il avait cette euphorie de l'enfance, cet enthousiasme, l'émotion aussi, l'hyper-émotivité. Et donc, à partir du moment où il est allé mieux, ça m'a donné moi aussi un souffle. Et je me suis dit, il faut que je fasse un projet artistique là-dessus, parce que j'avais déjà pris des photos quand il était pas bien, donc toute cette phase cancer, chimiothérapie, etc. Mais c'était des photos que je prenais sans trop savoir pourquoi, que je montrais à personne, qui étaient encore très difficiles pour moi. Mais à partir du moment où il est allé mieux, 2-3 ans plus tard, d'un coup, je me suis dit, mais ces photos-là peuvent être comme un témoignage et montrer les premières étapes de cette maladie. Et en fait, je peux continuer cette aventure avec lui. Et ça nous a donné aussi un but, ça nous a donné un jeu. Et même lui, je pense que ça permettait aussi de gonfler son ego et de se sentir encore utile et vivant. Parce que c'est vrai que le quotidien d'une personne âgée dépendante, c'est pas foufou, quoi. Ouais. Et donc, d'un coup, ça ramenait de la poésie, ça ramenait du jeu et ça ramenait de la vie, quoi.
Et de la communication entre vous.
Oui. Parce que c'est vrai ça dépendait. Il était très, c'était très aléatoire son état. C'est-à-dire qu'au sein d'une même heure, il pouvait soit avoir le regard perdu, sans capacité de vraiment comprendre ce qu'on lui dit ou de répondre, et d'être un peu désemparé, inquiet, et d'une minute à l'autre, d'un coup, se recapter, faire une blague, rigoler, être capable de converser, et même de danser ou quoi. Enfin, c'était complètement aléatoire. Et il fallait attraper tout ça et savoir le gérer, cet équilibre, gérer aussi la frustration que ça peut être quand on est aidant proche et que ça demande beaucoup d'efforts. Mais c'était très beau, et au final, j'ai décidé à un moment donné de ne plus subir en final cette maladie et ses séquelles, mais de me dire, ok, papa est là, il a changé, mais c'est lui, mais c'est un nouveau papa. Comment j'apprivoise ce nouveau papa et comment je décide de faire de ce quotidien au final une poésie pour juste vivre mieux les choses tout simplement.
Oui, une poésie, un voyage joueur.
Voilà.
Charlotte Abramoff prend la route avec nous aujourd'hui. Je vous propose que l'on écoute une chanteuse californienne, Shannon Shaw, Break My Own. Vous écoutez France Inter.
Just leave me behind. Ain't going it on. My worst enemy is my own flesh and bone. Don't worry about this heart of mine. It's been busted for a long, long time. You'll only find static on the line. So hang up the telephone.
Shannon Shaw. Vous écoutez France Inter et la photographe Charlotte Abramoff est notre invitée dans Chacun sa route jusqu'à 15h. On a plongé ce studio dans le noir, quasiment dans le noir, pour partir en voyage avec vous, Charlotte Abramoff, dans un espace où le cerveau mène une vie qui parfois, souvent, nous échappe. Dans votre travail, il y a une constante. Vous aimez voyager dans les rêves. En tout cas, vos rêves vous inspirent des mises en scène. On en parlera tout à l'heure. Vous travaillez beaucoup dans les studios. Et vous avez aussi éveillé cette fois, surtout, discuté avec Maurice, votre père, la nuit, puisque c'est comme si son cycle s'était inversé une fois qu'il est sorti du coma. Est-ce que vous accepteriez de nous emmener dans un monde de rêves, dans les rêves que vous habitez régulièrement? Je ne sais pas si, par exemple, on était dans un de vos rêves. Est-ce qu'il y a des couleurs qui reviennent?
Des couleurs, je ne sais pas, mais des problématiques, oui. Alors c'est marrant parce que c'est Blanche Gardin qui dit que c'est toujours une aventure périlleuse de raconter un rêve.
C'est vrai.
Mais disons que c'est plus des problématiques, des espaces. Souvent, j'ai du mal à rentrer chez moi. Très bizarre, où je me perds dans des couloirs de métro. C'est des nouveaux noms de stations qui apparaissent. J'y comprends rien. Et c'est toujours ce côté impossibilité à atteindre l'objectif, mais je pense que c'est un peu typique des rêves. Et d'ailleurs, j'ai entendu une interview il n'y a pas si longtemps de Toby Nathan, qui je pense est psychanalyste et psychiatre, si je ne me trompe pas. et qui a beaucoup étudié les rêves justement, et qui disait qu'apparemment les rêves étaient des machines à fabriquer des angoisses pour nous préparer aux angoisses du lendemain. Et c'est comme ça que c'est typique qu'on puisse par exemple rêver qu'on va rater un train la veille de prendre un train. C'est vrai que ça m'arrive très souvent, rêver de rater le train, l'avion, rêver que l'horloge tourne plus vite que la normale, rêver aussi de perdre ses dents, ça c'est un classique, ouais. de crainte de perte de proches. C'est toujours un peu des petites angoisses quoi, les rêves, c'est toujours teinté un peu négativement, mais je trouve que c'est très intéressant sur justement ce côté problème à résoudre et quelle est notre capacité à encaisser aussi la frustration de ne pas savoir résoudre un problème. Et c'est peut-être une philosophie de vie un peu, bon là je pars dans tous les sens, mais
non
je pense que c'est intéressant en tout cas.
Et vous faites partie des gens qui se réveillent au milieu de la nuit et qui notent leurs rêves?
Non, je me réveille pas trop pendant la nuit, mais c'est vrai que si je peux noter quand je me réveille, je le fais, si je suis pas réveillée par quelque chose de trop extérieur qui me sort du rêve. Mais une fois j'ai fait un rêve où il y avait carrément 7 chapitres différents, enfin il y avait vraiment 7 scènes, 7 lieux, c'était complètement dingue. Et c'est vrai que parfois on se dit bon bah peut-être il faut consulter, mais c'est assez intéressant je trouve ça. C'est après je pense que les rêves sont assez communs finalement, voilà, que ce soit le rêve des dents, le rêve de se perdre, le rêve de se retrouver tout nu, c'est au final peut-être c'est aussi très culturel le rêve.
Mais est-ce qu'il nourrit votre travail, le rêve, et notamment le travail que vous avez fait avec votre père? Est-ce que vous avez eu l'impression que vous nous emmeniez quelque part dans un monde parallèle?
Bah, au final, c'était pas forcément le monde de mes rêves à moi, mais c'est plus le fait que dans la réalité et dans la vraie vie, mon père était comme entre deux mondes, puisqu'il était entre la conscience et l'inconscience, et qu'en effet, il y avait ce côté où il pouvait être plus endormi la journée que la nuit, et que la nuit, d'un coup, il se lève et il va dans la cuisine, il cherche des gâteaux ou des biscuits dans les armoires, en se levant sur une chaise, et puis qu'il commence à lire un magazine ou à me dire « Bon, et toi, comment ça va ?» alors qu'il est 3h du matin.
Et donc, mais qu'est-ce que vous faisiez, vous, à 3h du matin?
Bah moi je suis un peu une insomniaque, donc ou alors j'entendais, je me disais ah bon, peut-être qu'il a monté sur la chaise, il faut faire attention, des choses comme ça. Donc souvent, et puis même en vrai, je savais qu'il parlait plus la nuit. Donc au final, ça m'intéressait aussi de pouvoir aller le rencontrer la nuit et d'assister à ses loufoqueries un petit peu de nuit et rigoler avec lui en fait tout simplement. Et c'est d'ailleurs, j'ai dû lui montrer la maquette du livre à 3h du matin parce que c'était l'heure où il était le mieux pour la recevoir émotionnellement et consciemment. Et c'est d'ailleurs lui qui a trouvé le titre du livre après avoir vu l'ensemble de la maquette. Et je lui ai dit, bah, quelle serait ta conclusion de l'histoire? Et il m'a répondu de but en blanc, tristesse et rigolade. Mmh. Et ça m'a paru tellement évident et fort que j'ai voulu en faire le sous-titre du livre. Et c'est d'ailleurs son écriture manuscrite que je lui ai fait écrire par après, parce que j'aime beaucoup son écriture à la main, et qui est devenue du coup gravée dans la couverture du livre.
Et ce rapport à la nuit, vous l'aviez avant sa maladie ou vous l'avez développé?
J'ai toujours un peu été insomniaque, à me coucher tard, etc. Et mes parents aussi, je pense. Donc c'est vrai qu'on a toujours été un petit peu des marmottes de nuit. Et des lèvres tard, mais c'est vrai que voilà, la nuit ça a toujours, enfin très bizarrement depuis que je suis toute petite, quand vient l'heure d'aller se coucher, bizarrement c'est l'heure où mon cerveau décide de penser à 3000 trucs et à se dire ah bah tiens je ferais bien ci ça machin, enfin ça n'a aucun sens, mais je retarde un peu ce truc de l'endormissement alors que pourtant j'adore dormir.
Ouais. Le livre est très lourd, je ne sais pas
c'est
combien
vrai.
Il pèse.
1,8 kg.
1,8 kg pour faire du sport, c'est assez pratique ce genre de livre. Il est très beau, il est très grand, c'est vraiment un magnifique livre si vous le trouvez. C'est donc un livre sur votre père et il est en deux parties. Il y a une partie documentaire où vous racontez un peu ce que vous nous racontez ici, mm-hmm. Votre vie avec lui, sa vie à lui, oui. D'ailleurs. Est-ce que vous avez appris des choses de lui au moment où vous faisiez ce travail après, en fait? Après,
bah oui, complètement. Bah, j'avais toujours eu envie, en fait, très bizarrement, même très tôt dans ma vie, de m'intéresser plus à sa vie, parce qu'en fait, il est né en 1932, et aussi, il a été enfant caché pendant la guerre à Anvers. Et je m'étais dit que je vais creuser sur sa vie, etc. Mais au final, vous savez, on reporte toujours au lendemain ce genre de choses. Mmh. Sauf que bah, la maladie est arrivée en plein milieu. Et heureusement que mon papa s'est réveillé de ce coma, parce que du coup, ça m'a vraiment donné comme une seconde chance. Et je me suis dit aussi que au début, cet ouvrage voulait vraiment s'axer sur la maladie, les séquelles, et surtout comment on arrive encore à vivre avec la maladie, comment on arrive à trouver du bonheur, de la poésie, et à réapprivoiser tout ça. Mais à un moment donné, je me suis dit, je veux pas définir mon père que par sa maladie, qui au final est arrivée qu'à ses 79 ans. Mmh. J'ai voulu aussi raconter tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait, aussi en tant que scientifique. Parce que finalement, dans cette vocation de scientifique, de médecin, il y a la volonté de comprendre, d'analyser, de réparer, de construire, de reconstruire, et que je trouvais une très belle résilience. Et c'est vrai que mon père avait un instinct de vie et de survie très fort, et il avait une vraie force de vie énorme, quoi.
Et puis l'autre partie du livre, c'est une partie que vous tournez en studio. Alors que là, comme on est dans un studio de radio, je pense qu'on comprend ce que ça veut dire un studio de photos. C'est vraiment un espace où d'un coup on crée quelque chose, il se passe une rencontre. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'il ne se passe pas dans un studio exactement ce qu'il peut se passer hors d'un studio ?
Non, complètement, c'est un monde à part. Et c'est vrai que, en fait, dans ce côté... deux parties de mon livre, je voulais faire un parallèle avec justement comment est la réalité, comment je la prends en photo, comment est le quotidien plus terre à terre de mon père, et en même temps ce décalage avec la réalité, ce décalage avec justement ce comment la manière dont le temps passe, etc., et en faire justement quelque chose de surréel, de surréaliste, où je me dis ok, donc là j'ai témoigné de la vie de mon père, je l'ai pris en photo dans son quotidien. Maintenant, comment je m'imagine au final les séquelles de mon père? Quel est le monde que je m'invente dans ma tête? Comment je visualise les choses pour en faire un monde à lui? Et c'est comme ça que je me suis entrepris dans l'idée de faire comme des tableaux métaphoriques, comme si je réalisais en fait un conte visuel, un conte en images de ces différentes séquelles, c'est-à-dire par exemple justement le coma, ou ce qui a été la convalescence et la reconstruction, le langage, la désorientation,
le royaume, j'adore.
Le royaume, plein de petites thématiques qui ont gravité autour de lui sur le fait justement de ces séquelles, de se reconstruire, de comme quand on est toujours sur ce fil de on ne sait pas. Et au final, je me suis dit, je vais créer ces images de A à Z, et c'est vraiment mon interprétation de ce qu'a pu traverser mon père, avec quelque chose de beaucoup plus artistique et beaucoup plus mise en scène, mais qui est complètement inspiré de lui et de ce qu'on a vécu et de son monde, etc. Et c'est comme ça que s'enchaînent différents tableaux. Par exemple, il y a le coma qui est sur un fond noir complètement, comme s'il était perdu dans un trou noir justement. Et lui est habillé complètement de blanc dans un costume trop grand qu'on a créé spécialement pour lui avec Chloé Prunier. Mmh. Et j'y ai fait, par exemple, j'ai mis en scène des miroirs déformants. Il y a quelque chose d'un peu angoissant dans cette série, qui est un peu le début de cette deuxième partie du livre, de cette partie mise en scène qui s'appelle Entre l'Est et l'Ouest.
Et glaçante, enfin, en tout cas, qui m'a procuré une vraie émotion, c'est celle où on voit plus ses yeux.
Oui, complètement. Mais c'est parce qu'en fait, pour moi, c'était un peu comme le Big Bang de ce nouveau Maurice, c'est-à-dire ce coma où les choses se transforment, se recréent, on a peur qu'elles disparaissent, qu'elles s'enfouissent, on a toujours peur qu'ils soient tirés plus vers la mort que vers la vie, vers l'oubli que vers le souvenir. Et donc c'est vraiment une distorsion complète, ce coma. En tout cas, c'est l'image que je m'en suis faite, et ce côté où on est perdu entre deux mondes et où il faut lutter pour revenir dans un monde palpable. Et c'est ainsi que s'enchaînent les différents tableaux, où à chaque fois j'ai en fait tout dessiné en amont, réfléchi aux costumes, réfléchi aux objets qui pouvaient à chaque fois raconter ce que chaque étape racontait dans la vraie vie, et en faire un tableau poétique.
Et mis à part une photo, si je ne m'abuse, où on vous voit vous et on voit votre mère, il est toujours seul sur ces photos, ouais. C'est un monde assez solitaire. Est-ce que c'est parce que c'est un monde, celui dans lequel il était, où finalement on ne peut pas totalement accéder de l'extérieur?
Complètement, c'est vraiment c'est un peu comme une chambre ou une antichambre, et c'est chez lui, et en effet il n'y a personne d'autre. Et ça pose la question de est-ce qu'on arrive à le rejoindre ou pas. C'est vrai qu'avec ma mère, je pense qu'on était les seuls à savoir le rejoindre de temps en temps, même s'il a été capable parfois d'avoir des conversations avec des gens ou quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté très solitaire et très, il est dans son monde, et le but c'était pas forcément de comprendre son monde, mais c'était de le visibiliser, et de lui rendre hommage.
Ouais, d'en raconter quelque chose en tout cas. Rester vivant par-delà la disparition. Le Canadien Mustapha et sa voix déchirante nous propose de Stay Alive. Vous écoutez chacun sa route sur France Inter. Sam, I just spent losing my marbles, Sam. I got a Glock 4-5.
A bottle of lean, a gun in your jeans, and a little faith in me. A plane in the sky, the only starlight on this never-ending street. The cameras in cops, we could have been stars on our mother's new screens. On our mother's new screens. All of these traps and all of these street signs, none of them will be yours or mine. But I'll be your empire. Just stay alive, stay alive, stay alive.
I've been trying to keep my cool, man, before I lose it.
These colors and flags, the sweat on your back, you're doing what you can. Pride in your hand, a price on your head, you can never let them win. Just put down that bottle, tell me your sorrows, I care about you, fam. I care about you, fam, oh, oh. All of these traps, and all of these street sounds, none of them will be. But I'll be your empire. Just stay alive, stay alive, stay alive.
For me, I'm just trying to keep my head above water, man.
And if they take it all away, all freedom in our hearts and that glow in your face, I'll remind you who you were before it changed. All of these tribes and all of these street signs, none of them will be yours or mine, but I'll be your empire. Just stay alive, stay alive.
Mustapha nous invite à rester vivant sur France Inter. Il est un petit peu plus de 14h30 et comme chaque jour, c'est l'un de vous, vous qui nous écoutez, qui nous racontez un moment ailleurs, un moment qui vous a touché, blessé, emmené vers d'autres contrées. C'est un voyage intérieur, un voyage vers soi, un voyage fait de rencontres. Vous nous le racontez, le répondeur, 01 56 40 68 68, mon compte sur Twitter, HelloFond, ou sur Instagram, vous faites ce que vous voulez, mon mail, elodie.fond@radiofrance.com. Aujourd'hui, Manon nous raconte sa rencontre avec un jeune garçon vietnamien, Min, ici, en France. Et je vous emmène, Charlotte Abramoff.
J'ai quitté mon ancien travail suite à un burn-out, donc quelque chose qui a été très violent pour moi. Et après avoir suivi certaines psychothérapies, lu beaucoup de choses qui parlaient sans arrêt du retour à soi, de s'occuper de soi, etc., j'ai fait une petite overdose de mon nombril et je me suis dit, c'est pas comme ça que moi j'irai bien, c'est pas en m'occupant de moi. Je vais changer le monde autour de moi. Donc j'ai découvert une association qui cherchait des familles d'accueil pour des enfants qui venaient se faire soigner en France. Et quelques mois après, j'ai reçu ce petit garçon qui est arrivé en France.
C'est un enfant qui est grand brûlé, donc il avait déjà subi une dizaine d'interventions dans son pays. Et là, les soins que les médecins voulaient lui prodiguer n'étaient pas faisables au Vietnam, donc c'est pour ça qu'il est venu en France. Alors c'est sûr que c'est un enfant qui a été gravement brûlé, donc son visage est impressionnant. Il fait peur, en fait, il faut le dire clairement. C'est un visage qui nous rend nous malheureux, parce que quand on le voit, on imagine par là où il est passé, en fait. Et c'est pas facile. On devait faire une seule opération, et ça s'est transformé en deux opérations. La deuxième opération, la greffe de peau n'avait pas bien pris. Donc, il a fallu faire des soins pendant très longtemps pour la cicatrisation. Donc, moi, j'ai appris à faire plein de choses que j'avais jamais faites. des pansements à l'argent que je devais faire toutes les 3 heures pour faciliter sa cicatrisation. J'ai du mal avec la vue du sang, mais alors là, je peux vous dire que dans ce cas-là, j'ai fait des trucs pas possibles. Et donc voilà. Au début, j'avais du mal avec le regard des autres. Parce que moi, très vite, j'ai plus du tout vu ni le handicap, ni son visage différent. J'ai complètement dépassé ça, mais à une vitesse folle. Parce que lui, il a dépassé ça de manière incroyable. Il met pas de casquette, il se cachait pas le visage, il avait pas honte, il était pas spécialement pudique. Donc ça m'a appris aussi à être très libre par rapport à ça. Par contre, le regard des adultes autour a été un peu difficile, ça m'a mise en colère pas mal de fois. C'est Mine qui m'a appris à lâcher prise, quoi, et à s'en foutre complètement. Plus ça allait, plus je sais qu'on était tous les deux très fiers de marcher main dans la main quand on était dans la rue, parce que quand on est ensemble, on a deux énergies qui fusionnent et ça, il se passe plein de belles choses, quoi. Même avec les chirurgiens, les infirmières, on a réussi à avoir toute une équipe autour de nous qui nous écoutait vraiment. Ça, c'était fantastique. C'est la première fois vraiment que j'ai senti ce que ça pouvait être, le sentiment de maternité, d'être responsable de quelqu'un et d'être lié à quelqu'un, sans même l'avoir porté. Quand Mine est parti suite à ses opérations, il est rentré au Vietnam. J'ai eu sa mère au téléphone. On parle pas un mot en commun, toutes les deux. On n'avait rien à se dire, mais... juste d'être toutes les deux, enfin de respirer ensemble au bout de ce téléphone, c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup marquée, parce que je sens vraiment avec cette femme que là on est deux mamans, et elle me l'a dit. Et quand je suis allée au Vietnam, elle m'a présentée à tout le monde comme étant la deuxième mère de son fils, et elle m'envoie des petits WhatsApp et des messages pour la fête des mères et tout, alors qu'on n'a jamais échangé plus de 10 mots, quoi.
Et Manon est aujourd'hui enceinte.
Magnifique.
Ouais, très belle histoire. Merci beaucoup à elle. Oui, c'est ça. Toute la France lui adresse ses félicitations. Charlotte Abramoff, vous qui avez aussi accompagné quelqu'un, votre père en l'occurrence, dans les hôpitaux, est-ce que pour vous aussi le regard des autres à un moment a été important ?
Bof. Oui et non. Enfin, pas vraiment, parce que. Moi, ce qui m'importait, c'était ma relation avec mon père et le fait qu'il aille mieux et qu'on puisse vivre des moments. Après, les autres, s'ils se posent des questions, on leur dit juste, il est un peu désorienté ou il est pas tout à fait dans ses pompes. Mais après, pas trop. Disons que c'est plus quand il y a eu les questions, parce qu'en fait, j'ai financé mon projet grâce à une cagnotte sur Internet, sur un Kickstarter. Et c'est plus là où je me suis dit d'un coup, je vais afficher mon père devant tout le monde, ma vie, notre vie, est-ce que c'est pas... Et à un moment donné, je me suis tout simplement dit, tu préfères quoi ? Tu préfères ne pas faire ton projet parce que peut-être que les autres vont penser qu'eux, ou faire ton projet et ils en foutent des autres ? Et clairement, c'était faire mon projet et j'ai aucun regret. Je pense que je me serais mangé les doigts toute ma vie si je m'étais dit de pas le faire parce que peut-être qu'on va penser qu'eux. Donc j'ai foncé, de toute façon ça a touché les gens. Et le premier jour d'ailleurs où j'ai mis la cagnotte en ligne, j'ai reçu tellement de messages... qui étaient des messages de gens inconnus, mais qui étaient des messages intimes, parce qu'au final, la maladie, la famille, c'était quelque chose qui faisait que d'un coup, un pont était créé et les sentiments étaient beaucoup plus fluides entre humains, et c'était assez très, très émouvant, en tout cas.
Oui, on est tellement à avoir été touché par la maladie, par l'absence.
Et on n'en parle tellement pas, c'est ça aussi, quoi.
Et par le regard absent, évidemment, on le sent dans votre projet, mais ça... Quand, par exemple, les personnes qui ont Alzheimer, y a ça, il y a vraiment ce regard qui part, qui d'un coup revient, qui repart, qui revient. Et je trouve que dans votre série de photos, il y a ça. Pour quelqu'un qui fait de la photo, ce rôle primordial que joue le regard, comment on le capte ?
Avec mon père, ce qui était assez fou aussi, c'est qu'en fait, mon appareil photo avait un vrai pouvoir. C'est-à-dire que même s'il était désorienté, ou absent justement, quand je sortais mon appareil photo, hop, c'était une stimulation, et vu qu'il était un peu joueur et que même avant sa maladie il adorait poser, faire un peu le pitre, faire l'acteur, etc. Ouais. Évidemment juste à titre familial, hein, mais il avait ce côté il aime poser, et du coup même quand il était un peu perdu, je sortais l'appareil photo et hop, il reconnectait direct par rapport à l'objectif. Il se marrait, il faisait des pauses, il faisait des grimaces. Et c'est vrai que même s'il y avait des moments où parfois on n'était pas à même de communiquer par la parole, ou parce qu'il était plus fatigué ou quoi, bah d'un coup l'appareil photo venait comme un jeu entre nous et on arrivait à se marrer juste parce que j'avais un appareil photo dans les mains et que je le prenais en photo et ça recréait une nouvelle forme de communication entre nous et c'était très stimulant et en plus ça faisait des super souvenirs et même des photos plus artistiques importantes.
C'était comme un pont en fait.
Complètement.
L'appareil photo entre votre monde, celui d'ici et le sien.
C'était un stimuli et une manière de continuer de le faire vivre, de le faire exister et de graver aussi ce qu'on arrive à trouver de beau dans le quotidien plus morose et finalement à profiter de chaque goutte de vie et de voir chaque parole, chaque regard comme une merveille et comme « Waouh, c'est génial, il a dit ça », c'est se réjouir en fait de tout ce qu'il peut donner.
Et bon, je vais faire de la psychologie de comptoir, mais est-ce que quand il y a un appareil photo entre finalement vous et la maladie aussi, est-ce que c'est une manière pour vous de vous mettre à distance?
Ah oui, complètement. Bah surtout, je pense que c'est pour ça que j'ai fait des photos au tout début de la maladie, où tout était complètement en chantier, on ne savait même pas qui allait avoir le coma, etc. Tout était de l'incertitude totale. Et je pense que l'appareil photo, c'était un tampon entre moi et ce qui se passait pour peut-être pour cacher un peu mes émotions, pour essayer de me dire waouh, c'est un truc de fou ce qui est en train de se passer, pour essayer de le rendre réel et du coup de mieux le comprendre par la suite. Mais c'est sûr que pour moi, la photographie, je pense pas que j'aurais pu vivre aussi bien cette expérience de vie qui était quand même à la base un traumatisme sans la photographie. La photographie a vraiment été une thérapie dans ma manière de voir les choses, parce que c'est d'ailleurs ce qui se passe, je pense aussi en psychologie ou en psychiatrie, c'est parfois on peut pas changer une situation, mais on peut changer la manière dont on perçoit la situation, et c'est le seul moyen finalement d'avancer et d'accepter et d'aller mieux. C'est si on n'a pas de pouvoir sur la chose, on a un pouvoir sur la manière de la voir.
Et est-ce que la photo change votre rapport à la mémoire? Parce que parfois on n'a plus la mémoire du moment, mais on a la mémoire de la photo.
Ouais, mais complètement. Ça me traumatise un peu d'ailleurs. D'ailleurs, je commence ici à avoir cette chose chelou qui est parfois j'ai des souvenirs et je sais pas si c'est des choses que j'ai rêvées ou des choses que j'ai vécues. Et c'est vrai que moi, comme je vous dis, je suis plus dans la construction d'une image, un peu comme pourrait le faire un peintre ou quoi. Donc, je suis moins dans graver des souvenirs. Mais c'est vrai que la mémoire, c'est un truc qui m'inspire beaucoup et qui m'angoisse aussi, d'ailleurs, sur d'autres plans. Mais en tout cas, je suis très, très fière d'avoir pu faire ce livre et tout ça, parce que ça va être un outil de mémoire infini, intemporel et pour toujours. Et donc... c'est parce que c'est lié aussi à mon histoire personnelle et à mon père. Dans mon autre travail photographique, parfois c'est moins lié à ma vie personnelle, donc c'est moins avec ma mémoire personnelle. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'infini, de pour toujours, quoi.
Et l'infini, puisque vous parlez de l'infini, lui justement, c'est votre dernier tableau. Il parlait de la NASA, je vais retrouver sa phrase, je l'ai notée quelque part. Oui, vous lui demandez s'il va dormir et il répond oui dès que la NASA aura trouvé une nouvelle exoplanète.
Oui.
On parlait de l'espace tout à l'heure. C'est rigolo parce que c'est comme si lui aussi sentait qu'il était dans un monde un peu ailleurs.
Oui, complètement. Et puis, il faisait beaucoup d'humour. Hein. Il avait beaucoup d'humour et plein de jeux de mots comme ça qui, au final, paraissaient assez surréalistes, voire à côté, mais qui, en fait, avaient toujours une forme de justesse et une poésie qui faisait réfléchir par après. Et il disait aussi « J'ai peur d'être un oiseau qui sait à peine voler ». Enfin, à chaque fois, c'était des phrases qu'il pouvait lâcher comme ça au milieu de nulle part et qui, en fait... pouvait passer comme juste une pensée un peu délirante ou quoi, et alors qu'en fait pas du tout, elle était pleine de poésie, de sens, et c'est vrai que finalement il y avait aussi un lien quelque part avec entre le cerveau et l'univers, parce que au final c'est le docteur Stephen Lawrence qui a écrit la postface, qui est un neurologue qui disait que il y a plus de connexions neuronales dans le cerveau qu'il y a d'étoiles dans la galaxie. Et donc c'était faire un parallèle entre le mystère total encore du cerveau, qui est quand même à la base un objet qui produit des pensées, qui produit de la conscience, enfin c'est complètement ouf quand on y pense, un cerveau, et l'univers et tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ne comprend pas encore, la chose si vaste, si complexe, et finalement oui, quand mon père était un peu dans son monde, il y avait ce côté il est sur sa planète, il est sur son étoile, et en fait ce côté décalé m'invitait aussi à voir la vie de manière décalée et à trouver de la poésie dans les choses, en dessous des choses, et de plus trop être dans un truc super terre à terre, et de se rendre compte parfois de l'étrangeté du monde, quoi.
Alors effectivement, Forcément, c'est un peu difficile de savoir à quoi ressemblaient ces paysages à l'intérieur de lui-même, mais en tout cas, il y a beaucoup de poires.
Oui, c'est vrai. C'est parce qu'en fait, c'est une des premières phrases qu'il nous a dit, un des premiers besoins qu'il a exprimé, parce que comme je vous le disais au début, il exprimait aucun besoin, donc il fallait les deviner, les anticiper, y répondre. Et un jour, il a dit comme ça, je veux bien une poire. Et c'était un truc de ouf pour nous qui disent cette phrase. C'est pour ça que quand on vit avec quelqu'un de malade, en tout cas pour mon cas, qui a eu des séquelles neurologiques, la simplicité du quotidien ou de choses comme ça, comme vouloir une poire, c'est d'un coup une victoire, c'est d'un coup quelque chose auquel on se raccroche. Et du coup, la poire étant un truc qu'il adorait manger, c'est... Il y a aussi, vous voyez, dans le quotidien d'une personne malade, une récurrence qui arrive, puisqu'il faut aussi un quotidien rythmé et des repères. Et au final, quand j'ai voulu prendre son portrait et sa vie en photo, pour moi, ça faisait aussi partie des éléments du quotidien qui étaient autour de lui, comme ses lunettes, ses appareils auditifs, ses chaussures, toutes des choses qui, au final, le faisaient exister dans la vraie vie, le vrai monde ici, et faisaient qu'il était toujours vivant et toujours là.
Charlotte Abramoff nous raconte sa route dans Chacun sa route jusqu'à 15h. On pourrait presque dire qu'avec votre projet, vous êtes allé le plus loin possible sur les chemins de l'invisible, comme le chante Louis Chédid dans sa nouvelle chanson « Chasseur de papillons » sur France Inter.
Comme un chasseur de papillons, je cours derrière les émotions, en allant le plus loin possible sur les chemins de l'invisible. Là où le cœur bat la mesure, l'air devient de plus en plus pur, une impression d'apesanteur qui remet les pendules à l'heure. Et quand la chasse a été bonne, j'en fais profiter des personnes que je connais ni d'Ève ni d'Adam, et pourtant comme on se comprend. Vous faire rêver, vous distraire, chanter, danser, ne serait-ce qu'un instant, retrouver nos cœurs d'enfants et partir chasser les papillons. Chasser les papillons. L'humanité, quel terrain de jeu pour l'inspiration qui dit mieux. Des histoires à n'en plus finir et des notes pour se faire plaisir. Tous les jours je pars en vadrouille et même quand je reviens bredouille, je me dis attends que la muse te rappelle. Le jeu en vaut bien la chandelle. Pour vous plaire, vous faire rêver, vous distraire, chanter et danser, ne serait-ce qu'un instant, retrouver nos cœurs d'enfants. Chasser les papillons, partir, chasser les papillons.
Chacun sa route avec la photographe et réalisatrice Charlotte Abramoff jusqu'à 15h sur France Inter. On a parlé de ce voyage fait par votre père, ce voyage que vous avez essayé de capter, que vous nous transmettez aussi. C'est un voyage au passé puisque votre père est malheureusement décédé, on l'a pas encore dit.
Non, c'est vrai.
En 2018, juste avant la sortie du livre, mais oui. Il l'avait vu lui.
Oui, il avait vu la maquette. Il a pas pu voir le produit fini, il est malheureusement décédé 2 mois avant la sortie. Mais il a quand même vu tout le contenu et le principal, quoi.
Mais après, j'imagine que par contre, vous, quand vous avez dû en parler, quand il est sorti ce livre, ça devait être quand même très récent, très proche.
Bah, finalement, ça m'a vachement aidé, en tout cas dans le début du deuil, parce qu'au final, il était vivant dans mes mots et dans le fait que le livre venait de sortir. Mais c'est vrai que c'était un peu dissonant dans ma tête, quoi.
Oui, j'imagine. Et est-ce que cette captation de la mémoire dont on a parlé, est-ce que ça aide le deuil aussi ?
Je pense. Après, parfois, c'est un peu comme une illusion, parce que du coup, en tout cas, je me souviens qu'il est vraiment décédé quand j'étais dans la dernière ligne droite du livre. Et du coup, pour moi, il était encore là, puisque je les voyais sur les photos, dans les pages et tout. Donc, il y a parfois un peu une illusion où on a l'impression qu'il est toujours là. Mais au final, c'était aussi ce devoir de mémoire que je voulais faire et que je voulais qu'il continue à exister, même si lui, il n'existe plus. Son âme existe, son histoire aussi, et pour toujours.
Et ça, c'est quand même...
Ouais, c'est important.
Ouais, c'est important. Charlotte Abramoff, j'ai une mission pour vous.
Oui.
Quand on termine cette émission, chacun sa route, on fait le portrait d'une exploratrice. C'est la même toute la semaine. Et en l'occurrence, cette semaine, on raconte la vie d'Ella Maillard. On a parlé lundi du fait qu'elle excellait en sport. Mardi, on a raconté son premier grand voyage en Russie. Hier, de son voyage en Ford jusqu'en Afghanistan. Charlotte Abramoff, vous êtes, pour les prochaines minutes, Ella Maillard. Nous sommes donc en 1939, la Seconde Guerre mondiale vient de débuter en Europe, quand Ella Maillard arrive en Afghanistan. Elle décide de ne pas retourner sur le vieux continent tant que la guerre fait rage. Elle préfère prendre la route de l'Inde. Elle s'installe au sud de Madras et attend que la guerre se termine, loin des siens. Enfin, quand je dis « elle attend », elle n'attend pas sans rien faire. Et Ella Maillard rencontre en Inde Ramana Maharishi, un sage libéré vivant, comme on dit en Inde, et plonge dans plusieurs années d'intense spiritualité. Elle tente de mieux se comprendre, de trouver les portes de son voyage intérieur.
Depuis mon enfance, quand j'étais très heureuse, je me posais cette question. Qu'est-ce que c'est que la réalité, l'essence de la vie dans l'instant présent? Quand on veut arriver au fond du problème, il faut savoir qui on est. Tout dépend de moi et toutes les questions tournent autour de cette question. Qui suis-je?
Ses maîtres spirituels lui enseignent l'unité du monde et lui font découvrir, pour reprendre ses mots, les terres inconnues de son propre esprit.
Ce travail est aussi vaste que la vie, car il englobe l'analyse de notre être physique, mental, affectif et spirituel.
Soir et matin, Ella écoute des textes sacrés. À 11h, ils mangent tous ensemble. Tous ceux qui suivent les conseils des sages, un riz au curry servi sur des feuilles de bananier à même le soie de carreaux rouges. Elle raconte cette période forte, charnière même, de sa vie dans un nouveau livre, Tipus ou l'Inde avec ma chatte, qui sortira en 1952. Elle y raconte aussi la suite de ses aventures, puisque après la guerre, en 1945, elle quitte l'Inde et retourne vers sa Suisse natale, où elle s'installe 6 mois de l'année dans les montagnes, de la dernière à la première neige, elle qui est si douée sur des skis.
L'horizon vaste et varié est une source de joie toujours renouvelée.
C'était le bonheur. Une maison était enfin la sienne. Mais, disait-elle, l'aventure est la plus forte. Alors elle repart, au Népal, mais pas que. Pendant les 30 années qui suivent, elle organise des voyages culturels, entraînant de petits groupes de touristes dans de nombreux pays d'Asie, partout où, avec elle, on peut encore faire des découvertes. À ceux qui l'accompagnent, elle dit volontiers.
Posez-vous inlassablement la question « qui suis-je ?» Et par ce rappel constant, vous saurez que vous êtes la lumière de la perception.
Ella Maillard. Oui bon, elle était partie apparemment.
Ouais.
Ella Maillard expose ses photographies, les expose un peu partout en Europe. La vie immédiate en 1991, oui on fait un grand bond dans le temps, réunit quelques 200 photographies qui témoignent souvent d'un monde disparu et apporte, tout comme ses récits et ses films, une contribution non négligeable à la connaissance de l'histoire de notre temps. Elle s'engage aussi pour la préservation de la planète, elle qui a tant aimé la traversée de part en part et qui est effarée de la façon dont elle se détériore avec les années. Apaisée, riche d'une vie de découverte, d'une vie surtout de grande liberté. Ella Maillard s'est éteinte à Chandolin dans les montagnes suisses le 27 mars 1997 à 2000 mètres d'altitude. Elle avait 94 ans. L'intégralité de la vie d'Ella Maillard sera en podcast aujourd'hui ou demain si vous suivez le podcast Chacun sa route et évidemment à retrouver sur franceinter.fr. J'imagine que ça vous parle, Charlotte Abramoff, cette idée
tout
de laisser des photographies et qu'elle raconte quelque chose de l'histoire.
Tout à fait, et de mieux se comprendre entre nous tous.
Exactement. Vous savez, cette émission, je n'arrive plus à parler, s'appelle Chacun sa route, Chacun sa route, Chacun son chemin. Quel message, Charlotte Abramoff, passez à votre voisin?
De apprendre à savoir questionner la manière dont il voit les choses et à justement évoluer dans la perception des choses, la perception des autres pour mieux comprendre et mieux vivre ensemble, comme c'est beau.
C'est vous qui l'avez dit. Merci beaucoup Charlotte Abramoff.
Merci à vous mille fois.
Chacun sa route, épisode 19. Revenez demain. Demain, la chanteuse et actrice Carmen Maria Vega viendra nous raconter son étonnant parcours. Et puis, nous nous intéresserons au regard des jeunes de moins de 30 ans sur la planète. C'est vous donc,
c'est
jeunes de moins de 30 ans.
La relève.
Merci à Céline Dubois, Louise Cognard, Vera Louderide, Thomas Somaro et Claire-Sophie Collet qui ont préparé cette émission. Et à Djoubaka pour la programmation musicale. On se quitte comme chaque jour avec l'un de vos souvenirs musicaux liés au voyage, celui en l'occurrence aujourd'hui de Léo.
En Slovénie, dans la vallée de l'Oz, dans un petit kangou, on cherchait un endroit où dormir, on avait trouvé un chemin de croix pas mal, mais on était terrifiés parce qu'on avait croisé un ours avant, pas loin de cet endroit, et du coup on avait l'impression qu'il allait venir nous dévorer. Et on écoutait Aucun Express d'Alain Bashung toujours. Et puis Erwan qui conduisait, il chantait à tue-tête les paroles. Et je détestais cette chanson avant de me retrouver dans cette situation. Et maintenant, je peux pas l'écouter sans repenser à ce moment-là.
Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco ni un costaurant.
Si vous voulez nous raconter vos souvenirs musicaux, 01 56 40 68 68.